L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Volant, c'est pas forcément un podcast très technique et pourtant on vous parle tout le temps de transition énergétique sans que vous compreniez trop de quoi il s'agit entre le nucléaire, le renouvelable, le pétrole, les énergies fossiles, etc. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Ozano, qui est le directeur de Shift Project, qui est un groupe de réflexion sur la transition énergétique. Et en fait, à l'origine, c'est un journaliste qui a fait en 2002 le premier envoyé spécial sur les conséquences du changement climatique. En 2008, il a créé, ou en tout cas, il a l'origine du concept de la première émission d'enquête sur l'environnement qui s'appelait Global Mag. En 2015, il a écrit un bouquin qui s'appelle Or Noir sur l'histoire du pétrole et il a gagné un prix spécial des économistes de l'énergie. Bref, c'est un des experts français sur ce changement d'énergie et comment on fait cette transition. Et avec lui, on va vraiment expliquer ce qu'un adulte, finalement, devrait savoir aujourd'hui, en 2020, sur l'énergie. Donc je vous laisse avec cette conversation qui est un peu plus longue que celle d'habitude, mais quand je le fais, c'est qu'en général, ça vaut vraiment le coup. Allez, Volant, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, Mathieu, tu es journaliste et tu es directeur de The Shift Project, qui est un lien entre l'écologie et l'économie et qui essaye surtout de parler d'énergie. Peut-être que la première chose, et on en a parlé un tout petit peu avant, un truc que moi je savais pas typiquement, ou en tout cas que j'avais pas bien en conscience parce qu'on nous parle tellement de nucléaire que je l'avais pas forcément bien en tête. Est-ce que tu peux nous refaire un point, rapide ou plus ou moins rapide, sur la consommation d'énergie en France? Parce qu'on dit, en fait, le nucléaire c'est une petite partie, mais c'est juste une partie qui est pas la majorité.
Ouais, c'est grosso modo 17%. En fait, quand on débat sur l'énergie, on confond très souvent l'électricité et l'énergie. L'électricité, c'est un bout de l'énergie qu'on consomme dans un pays comme la France. C'est grosso modo un cinquième de toute l'énergie qu'on utilise pour faire tourner l'économie, les transports, l'industrie, tout. Mon grille-pain le matin. Donc effectivement... un cinquième de l'énergie qu'on consomme dans un pays comme la France, c'est de l'électricité. Et la plus grosse partie de cette électricité, c'est effectivement en France du nucléaire. Mais il reste les 80 autres pourcents où là, on tombe sur le problème qui est le problème du climat, qui est le plus gros problème de la transition énergétique, c'est celui de notre dépendance aux énergies fossiles. Parce que ces 80% qui restent, c'est pour beaucoup du pétrole et c'est pas mal de gaz naturel et encore un peu de charbon. Mais on a tendance à focaliser systématiquement le débat énergétique comme étant un débat nucléaire pour ou contre et pour ou contre les énergies renouvelables. En fait, il faut comprendre que d'une part, c'est une partie du problème et c'est un problème secondaire par rapport au problème qui est le problème posé par le climat, qui est celui de notre dépendance aux énergies fossiles. On est beaucoup plus dépendant des énergies fossiles en France aujourd'hui que dépendant du nucléaire.
Parce que je crois qu'effectivement, les gens ne réalisent pas à quel point notre confort de vie, enfin la manière dont on vit au quotidien, en fait, est liée à l'énergie. En fait, c'est-à-dire les routes, les chaussures, le transport, enfin tout, en fait.
Oui, en fait, c'est quoi l'énergie? L'énergie en physique, puisque c'est d'abord une grandeur physique, c'est la capacité d'une chose à transformer l'état de choses autour d'elle. Mmh. Donc, à déplacer, évidemment, mais à réchauffer, à refroidir, à contracter, à expanser. Dès que tu as une transformation quelconque dans le monde physique, biologique ou minéral, ou il y a un flux d'énergie qui entre en jeu, nécessairement, par définition. Donc on comprend que quand on parle de transition énergétique, on ne parle pas d'un petit sujet, on ne parle pas d'un sujet secondaire, on parle juste du système sanguin de notre société, ce qui permet de faire les choses ou ce qui nous interdit de les faire, physiquement, techniquement.
Et alors aujourd'hui, donc tout le monde parle effectivement de cette transition écologique et en même temps, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai pas l'impression que ça bouge des masses.
Du mien non plus.
C'est ça. Je me trompe pas trop, tout va bien.
Non, il s'est passé plein de trucs depuis 2 ans, mais disons qu'il y a aujourd'hui, ce qui est chouette. Enfin, moi, je peux pas bouder mon plaisir parce que j'ai fait du donquichotisme. J'ai pagayé à contre-courant et puis moi et beaucoup d'autres pendant de longues années. Depuis, je dirais en France, en tout cas, depuis 98. Depuis 2018, pardon. J'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, moi, vers la fin des années 90. Et en fait, voilà, il aura fallu 20 ans pour que, il y ait un consensus sur le diagnostic. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire que, globalement, la plupart des gens disent, effectivement, on a des problèmes à résoudre. Ceux qui ne le pensent pas, ils se trouvent un peu cornerisés dans les pages de Valeur Actuelle ou, voilà. Donc, ils sont ringardisés, tant pis pour eux. Donc, on est d'accord qu'il y a un diagnostic commun. Maintenant, il faut commencer enfin la conversation sur la thérapie. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le climat? Qu'est-ce qu'on fait pour la biodiversité? Etc., etc. Et là, mais au moins, ça y est, la société est largement d'accord pour se dire, OK, on a un gros problème. On a une grosse maladie, là.
Et tu peux revenir dans ce que tu m'expliquais tout à l'heure, qui est finalement... Le pétrole, c'est quelque chose qui est assez récent. Enfin, sur l'histoire de l'humanité, hein, évidemment. Mmh. C'est début...
C'est fin 19e.
Fin 19e, voilà. Donc, c'est une centaine d'années, en gros, qui ont transformé complètement notre manière de vivre. Qu'est-ce que ça impliquerait d'enlever cette énergie fossile-là?
On doit réaliser à quel point... tout ce qu'on est en tant que société, évidemment notre confort matériel, mais même le fait qu'en Europe on s'est pas foutu sur la gueule depuis 70 ans, ça a beaucoup à voir avec un état d'abondance énergétique. On vit, nous sommes le fruit et nous profitons d'une abondance énergétique jamais vue dans l'histoire de l'humanité, jamais vue. C'est en haut de cette pointe-là qu'on est, en tant qu'individu, mais aussi collectivement, en nombre et en qualité. En nombre, parce que, ben voilà, on est
très nombreux.
On n'a jamais été aussi nombreux, et ça a beaucoup à voir avec les transformations de l'agriculture, et le fait que tu mets un bonhomme, et puis il peut te cultiver à lui tout seul 200 hectares, ça c'est, alors qu'il fallait 200 ou 2000 bonshommes, il y a encore 50 ans. Donc on est bien nourri, on est nombreux et j'ai tendance à croire que on bénéficie en tout cas en Occident d'une certaine stabilité politique qu'on doit beaucoup au fait que on a quand même fait beaucoup reculer la misère. Je veux dire la vraie misère, celle qu'on connaissait, celle de Dickens, celle de Zola. Ça fait pas très longtemps qu'il y a plus de où il y a les taudis en France. C'est un peu Porte de la Chapelle, il y a quelques endroits comme ça. Il faut comprendre que là où on est aujourd'hui, Nanterre plutôt, c'était on avait besoin d'une masse de travailleurs misérables, et encore 60, il y a encore une cinquantaine d'années. Et que ça, on a pu faire reculer cette misère endémique qu'on connaît depuis des temps immémoriels. Ça a beaucoup à voir avec cet état d'abondance énergétique dont on jouit. Et cette abondance énergétique, c'est fondamentalement le pétrole qui nous l'a fourni. Puisque l'énergie la plus prolixe, la plus généreuse, la plus abondante, celle à laquelle on a le recours le plus facilement pour faire tourner nos bagnoles, pour faire venir de l'autre bout de la planète les trucs et les machins qu'on a envie d'acheter, comme ça, parce que ça nous dit, bah c'est grâce au pétrole. Et si on n'avait pas ce pétrole-là, il suffit de se dire, pour répondre à ta question, si j'enlève ça du monde, imaginez, l'autoroute A4, d'un coup, il n'y a plus de pétrole. Ah,
Ah, il n'y a plus de voiture.
Ah bah si, alors il y en aurait peut-être, mais on comprend, on devine que ça serait moins simple. Ça serait moins simple. On aurait besoin de s'organiser différemment. Voilà.
Et par rapport à ce que tu disais, j'ai trouvé, enfin, tu me parlais d'une théorie, et je ne sais pas si elle est fondée, mais je la trouve néanmoins très intéressante, de l'arrivée du pétrole et de la fin de l'esclavagisme, et de lier les deux.
Oui, alors plutôt la fin de l'esclavagisme et le début de l'abondance énergétique.
Ouais, c'est le charbon, quoi.
Ouais, c'est le charbon, mais c'est déjà le début du pétrole. Hein, ça se passe, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'est les années 60, c'est aussi la fin du servage en Russie. Et tu peux tout à fait... montrer que à partir du moment où la révolution industrielle prend son essor, on a moins besoin de servitude. Parce qu'il y a des machines qui peuvent remplacer des esclaves. Et d'ailleurs, on parle même d'esclaves énergétiques. C'est-à-dire que la puissance qu'on requiert lorsque on roule en bagnole, c'est l'équivalent de la puissance, d'ailleurs on parle de chevaux vapeur, c'est la puissance de dizaines de bons hommes très en forme. Voilà. Il faut imaginer qu'avant ça, avant l'essor du charbon et du pétrole, on avait recours à des énergies renouvelables, la principale étant l'énergie musculaire. Voilà. Et on peut tout à fait défendre l'idée que ce qui a permis de mettre un terme au scandale immémoriel de l'asservissement de l'homme par l'homme, largement, c'est le fait qu'on avait une solution technique de remplacement. Mais cette solution technique, c'est pas le génie humain, c'est pas des rouages qu'on a inventés, des mécanismes qu'on a inventés. On faisait des mécanismes très compliqués bien avant la révolution industrielle. Les montres qu'on faisait, les horlogers qui travaillaient dès le 15e, 16e siècle, qui faisaient des trucs qui étaient beaucoup plus compliqués qu'un moteur de bagnole. Beaucoup plus compliqués. La seule différence, c'est que on a pu mobiliser une source d'énergie qui nous a été offerte par la nature, dans le cas du charbon et du pétrole, qu'on a pu faire pour faire beaucoup d'acier, pour déplacer des charges très très lourdes sur de grandes distances, ce qui était absolument hors de portée, chimérique. Regarde la bagnole, c'est rigolo. L'imaginaire de l'automobile, il est bien antérieur à Monsieur Diesel ou à Monsieur Ford. Il y a des mecs qui imaginent une automobile dès, peut-être même il y en a avant, mais dès la Renaissance. Dès la Renaissance, il y a des gens qui ont l'idée de dire « Ah, ça serait génial !» si on pouvait faire un véhicule sans chevaux où on utiliserait la vapeur. Puis on essaye. Puis on se dit, ah bah non, avec de la vapeur d'eau comme ça, avec du bois, non, j'ai pas la puissance. Et puis, d'un coup, on se rappelle, vers le milieu du 19e siècle, en Russie, aux États-Unis, parce que c'est là que l'industrie du pétrole, dans ces deux zones-là que l'industrie du pétrole naît, que ce truc-là qu'on crame depuis l'époque de la tour de Babel, c'est très ancien le pétrole, hein, très très ancien, on en parle dans la Bible, mais qu'en fait, avec ce truc-là, tu peux mobiliser une énergie faramineuse, simple à utiliser, qu'on peut stocker. Tu mets le pétrole dans un baril, tu peux le reprendre dans un siècle, tu le crames et ça marchera. Tu vois, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, et c'est là le grand problème de la transition énergétique, c'est que toutes les alternatives au pétrole, au charbon, au gaz, sont plus compliquées. Plus compliquées. C'est ce qui me fait dire que, jusqu'à présent, on a eu tendance à se contenter de suivre des pentes de plus faible résistance, un peu comme l'eau qui s'écoule le long d'une rivière, le long d'une montagne, elle choisit pas. Elle choisit un chemin qui est plus simple, qui est plus facile. Quelque part, avec les énergies fossiles, on a fait ça jusqu'à présent. Et là, maintenant, on se dit, ah non, il y a le climat, il y a peut-être aussi Mad Max qui nous attend au coin de la rue. Il faut qu'on trouve des réponses. Mais les réponses, toutes les réponses, elles sont techniquement plus complexes, donc elles sont plus chères, elles sont plus compliquées à mettre en œuvre dans nos sociétés. Si on se rappelle que, si on perd pas de vue le fait que, à cette abondance énergétique offerte par les énergies fossiles, on doit notamment, sans doute, le fait qu'on a un peu moins envie d'envahir la Pologne ou d'envahir la Russie. Je dis pas ça, par légèreté. Le but de Hitler, lorsqu'il a envahi l'URSS, son but, c'était de mettre la main sur la plus belle source du pétrole qu'il y avait sur le continent eurasiatique, qui était Bakou. La Seconde Guerre mondiale peut être lue comme la volonté par deux grandes puissances qui ont tout sauf de l'énergie de mettre la main sur les ressources en énergie qu'il leur faut pour exercer leur puissance. Pearl Harbor, l'idée, c'est de mettre la main sur le pétrole de l'Indonésie. Barbarossa, l'invasion de l'URSS, l'idée, c'est de mettre la main sur le pétrole de Bakou. Et j'irai même plus loin. Pour moi, la guerre qui aura commencé notre siècle, qui est censée être le siècle où on va se passer du pétrole, eh ben c'est l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis, à une époque où la puissance américaine est sapée par le fait que la production de pétrole américaine, qui a été la plus prolixe au XXe siècle, déclinée pour des raisons écologiques, géologiques. Et Dick Cheney, le vice-président américain, son boulot à lui, avant, c'était d'être patron d'une société qui s'appelait Halliburton, dont le métier, c'est de conseiller les compagnies pétrolières pour récupérer un maximum de pétrole, vider le verre à fond. Voilà. Donc il ne faut pas juste croire que ces histoires de transition écologique, c'est pas sauver la planète, c'est nous sauver nous.
Et justement, donc, si l'Irak, c'est effectivement, bon, on a bien vu, je ne sais pas si tout le monde est bien au courant, mais que effectivement, que Saddam Hussein n'avait rien à voir.
Tous les prétextes qu'on a donnés étaient faux. Les armes de destruction massive, le lien avec Al-Qaïda, c'était du bullshit total.
Et d'ailleurs, il y avait un lien entre Bush et la famille Ben Laden.
Oui.
Donc, et on voit aujourd'hui qu'il va y avoir, il est en train de se mettre en place. Une forme de guerre autour de l'énergie. Enfin, c'est en train de se mettre en place entre les différents pays, j'ai l'impression.
En fait, si tu regardes depuis la révolution industrielle, il y en a eu beaucoup des guerres où l'énergie est au moins en arrière-plan. La guerre de 14. Dès la guerre de 14. La guerre de 14, les deux butins de guerre ultimes, une fois qu'on essayait de se partager les vainqueurs, c'est le charbon de la Ruhr. On connaît bien cette histoire, mais c'est aussi le pétrole de l'Irak. Seconde guerre mondiale, je viens d'en parler. Non, mais c'est intéressant parce que, si tu veux, quand tu parles de puissance, on parle beaucoup de puissance humaine, la vision politique, une puissance militaire, une puissance économique. Si t'as pas complètement dormi en physique au lycée, on te dit puissance, tu entends énergie. Parce qu'un watt, voilà, ce qui mesure la puissance, c'est un joule, ce qui mesure l'énergie par seconde. En fait, quand tu parles d'effectuer une puissance humaine, tu évoques le fait que t'as besoin de ressources adéquates en énergie, pour effectuer cette puissance. Sinon, tu perds la Seconde Guerre mondiale, ou sinon, tu n'es pas l'Arabie Saoudite, tu es le Soudan. Tu vois, je prends à dessein deux régimes politiques assez proches, de cultures assez proches. On n'entend pas souvent parler du Soudan. Pourtant, ils ont un peu de pétrole, mais ils se battent pour. Mais ils en ont loin. Ils sont loin d'en avoir autant que l'Arabie Saoudite. Et ce qui, moi, me fascine là-dedans, ce que je trouve extrêmement fertile, c'est que tout ça, ça remet l'écologie à sa place. C'est-à-dire que l'écologie, c'est pas une affaire d'environnement. Ouais, bon, il faut avoir des jolis... c'est bien qu'on ait des jolies armes, c'est bien qu'il y ait des petits oiseaux. Non. Il n'y a pas une solution de continuité, il n'y a pas une coupure entre nous et l'environnement. On est le produit de ce que permet ou de ce que permet pas la nature. Et on ne fait à nouveau que... On a fait largement, jusqu'ici, on a fait justement que suivre des pentes de plus faible résistance.
Le projet dans lequel tu es engagé, ça s'appelle The Shift Project, donc le projet de changement ou de transformation. Comment on fait cette transformation, en fait? Parce que, quelque part, tu vois, quand on dit, vous allez voir, tout le progrès qu'on a fait, ou toute la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, elle est liée à cette énergie, et en fait, cette énergie est en train de disparaître. Donc, concrètement, il va y avoir des guerres. Déjà, il y a une première question qui est que, s'il y a des guerres, peut-être que nous, on devrait aussi, plutôt que de dire, on va devenir écolo, on devrait... comme Trump ou autre.
C'est la solution Trump.
Voilà, la solution Trump, c'est de
Bush,
dire...
d'ailleurs.
Oui, voilà, exactement. Plutôt que de faire les gentils, on devrait être aussi méchants qu'eux, parce qu'en fait, être gentil, ça ne marche pas très bien. Donc, il y a cette première question. Et puis, la deuxième, c'est comment c'est cette transition? Parce que toi, comment moi, je peux avoir envie? Et toi, tu as une fille, je ne sais pas ce que tu lui racontes. Comment tu peux avoir envie d'un avenir? Comment tu peux, toi, avoir envie d'aller vers ça, en fait? Il y a deux questions.
J'ai plein de raisons d'avoir envie d'aller vers là. Peut-être la première, c'est qu'on est face à quelque chose qui est inexorable. Mm-hmm. Alors certes, ça fait chier. Ouais, tu dis, on est coincé en fait. Ben ouais.
Ouais,
on est coincé. Et si tu veux, J'ai longtemps pesté pour redevenir poli contre le discours, mais comment elle disait, Royal, il faut pas faire d'écologie punitive. Mm-hmm. Il faut donner envie. Non, parce que donner envie, c'est autre chose. Mais, oui, on est dans une situation périlleuse. Et alors, est-ce qu'on peut pas se dire, en faisant société, en se prétendant adulte, même si on a envie de tous rester des adolescents attardés, moi le premier, est-ce qu'on peut pas se dire, ouais, on est en train de dériver au vent des récifs, là. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille ou on envahit la Pologne ou qu'est-ce qu'on fait? Alors, si t'as pas envie tout de suite d'envahir la Pologne, d'ailleurs, il faudrait qu'on en ait les moyens, parce que la puissance américaine ou la puissance chinoise, c'est pas la puissance européenne. Donc, si on se dit, bon, c'est pas ma première solution, c'est pas la première dont j'ai envie. D'ailleurs, les Américains non plus n'en ont pas envie. Chaque fois qu'il y a eu des sondages sur est-ce que vous voulez une politique de transition audacieuse, les Américains ont répondu oui. Mais il se trouve que les structures politiques ont abouti à autre chose. Bon, bref.
Ils aiment bien la clim et tout ça, quand même, les Américains. Les grosses voitures.
Ouais. 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 Ça, c'est un gros morceau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage. Et en fait, c'est tout le sujet. T'as un décalage entre la représentation que tu te fais des choses, les symboles, et la substance des choses. Mmh. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de dépasser en tant qu'individu. Justement, dans le cadre d'une crise d'adolescence. Et moi, ce dont je suis convaincu, c'est que collectivement, ce qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité technique, c'est une crise d'adolescence. On se dit, ah, mais je veux des voitures volantes. Mais on sait pas faire. Arrête de nous faire chier avec tes voitures volantes. On sait pas faire. Et on saura jamais le faire. Pour des raisons bêtement physiques, par exemple. On n'a pas les moyens de faire en sorte que tout le monde ait 2-3 bagnoles. C'est juste physiquement pas possible. C'est pas que c'est pas éthiquement pas souhaitable. C'est que c'est physiquement pas possible. Et notre grande chance avec ce débat sur la transition énergétique, c'est que on peut, contrairement à des débats politiques classiques, on peut largement les objectiver. On peut parler de tonnes, de joules. Alors, ça suppose, c'est le parti pris qu'on fait, c'est-à-dire on est capable d'avoir des discussions adultes. Adultes. Qu'on est capable, encore une fois, d'avoir en tant qu'individu, lorsqu'on s'approche de la sortie de l'adolescence. Ah ouais, je peux pas, si c'est pas bien que je brûle la chandelle par les deux bouts. Que je scie la branche sur laquelle je suis assis. Bon, il y a des gens qui l'acceptent jamais, et en général, c'est pas ceux qui ont la plus grande longévité. Mais globalement, quelqu'un qui est câblé pas trop n'importe comment, au bout d'un moment, il se dit « Ah oui, je mets mon doigt dans la prise, ça pique. » Eh ben, faut qu'on arrive à faire ça collectivement. Et pour l'instant, on a un peu de mal. On a même beaucoup de mal parce que, précisément, on est hors sol. On n'a pas envie... On fantasme beaucoup de choses. On fantasme en particulier sur le génie humain qui va permettre de renverser toutes les barrières. En général, les gens qui sont les plus sceptiques sur le génie humain, ce sont des ingénieurs,
oui, c'est
des physiciens,
bien sûr,
qui eux savent. C'est exactement quand tu vas à la campagne et que tu commences à expliquer des choses à un paysan. Le paysan, il te regarde, il fait ton rêve là, t'es mignon. Écoute-moi un peu. Tu vois, eh ben, il y a de ça. Et c'est un des nombreux problèmes. On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de dans cette crise d'adolescence, on a beaucoup d'étapes à franchir. C'est compliqué, une crise d'adolescence. mais il y en a un qui consiste à commencer. Il y a une étape qu'on a besoin de faire, c'est accepter que vrai ou faux, c'est rarement possible en même temps. C'est marrant hein, que le truc des fake news, les réalités alternatives, ça vienne justement maintenant. C'est venu des États-Unis qui sont confrontés à une alternative. Ok, on est le produit, on est la pointe de cette abondance énergétique. On a tous deux bagnoles, enfin on est nombreux à avoir deux bagnoles, on est nombreux à être obèses, et on n'a pas envie que ça change, et ça nous va bien. Et, merde, changement climatique, épuisement des ressources, oh non, ça va, l'end of plenty, c'est nous, c'est bon... Et je vais m'inventer une réalité alternative. Ah oui, c'est un complot chinois. C'est ça qu'il faut affronter. C'est ça qu'on affronte dans une crise d'adolescence. Les gens croient ce qu'ils ont envie de croire, en général. Et réaliser que soi-même, on est souvent victime de ça. Ah mais non, mais je me raconte des histoires, là. Bah, faut qu'on arrête collectivement de se raconter des histoires. Oui, on est en train de dériver au vent des récifs.
Donc c'est ça que j'allais te poser une question, mais du coup, je pense que c'est ta réponse. Toi, tu as envie qu'on ait une discussion entre adultes du sujet. Mmh. Qu'est-ce qu'un adulte devrait savoir, en fait? Enfin, c'était le sens de ma question. Qu'est-ce qu'un adulte devrait savoir?
Bah, déjà, dans les des problèmes politiques classiques qui se passent d'homme à homme, on est capable d'avoir des conversations extrêmement sophistiquées pour savoir retraite à point, pas retraite à point, CSG, retenue à la source. C'est marrant, d'ailleurs, quand il s'agit d'argent, on comprend. On est capable de faire des efforts pour comprendre des trucs très compliqués. Hein. Bah, il faut comprendre que l'énergie, c'est comme l'argent, en fait. Et grossir son capital, ça demande de l'énergie. Mmh. Bon. Eh ben, il faut s'acculturer. Il faut, avant de confronter nos opinions, il faut accepter de confronter nos opinions à ce que dit la science et ce que dit la technique. C'est possible, c'est pas possible. C'est possible, à quelles conditions? Il n'y a qu'à Faucon mettre des bagnoles électriques partout. Ah, à quel prix? Est-ce qu'on peut produire ça? Est-ce qu'on est capable de produire l'électricité qui nous permet de faire ça? Est-ce qu'on est capable de produire cette électricité sans faire ce qu'on fait dans beaucoup de pays encore, en cramant du gaz et du pétrole ou du charbon? Tu vois?
Qui va chercher les métaux rares.
Ouais, ouais.
Non, mais bien sûr.
C'est quoi? En fait, on a suivi des pentes de plus faible résistance. Là, il faut passer un col. Ben, pour passer un col, si jamais t'as mis les pieds en montagne, t'écoutes le guide. Et aujourd'hui, le guide, c'est un de ceux qui est le plus discrédité dans la société. C'est l'expert. Oh non, fais chier, on va pas écouter les experts. Le technocrate, encore pire. Technocrate. Mais merci, le technocrate. C'est le technocrate qui fait que quand j'allume, ça s'allume.
J'ai entendu un...
Et on a démonétisé complètement... Enfin, on a discrédité cette parole-là par inconséquence. Et je pense par puérilité. Parce qu'on se rend pas compte à quel point on est dans une situation précaire.
Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'association que les gens, ils ont majoritairement une conscience écologique, donc ils ont conscience du problème. Mais qu'en même temps, ils sont entraînés dans...
Ils ont conscience qu'on a un problème.
Ils ont conscience qu'il y a un problème.
Mais voilà. Comprendre le problème, avoir conscience qu'il y a un problème et comprendre la nature du problème, c'est deux choses très différentes.
Effectivement. Mais surtout, j'ai l'impression qu'ils sont dans la bagnole, mais en passager, en fait. Et eux, la voiture, elle va très vite.
Bien sûr.
Et eux, en fait, ils sont en passager, ils se laissent guider, c'est comme s'ils étaient en train de chanter des chansons pendant que le pilote, ils se disent, non, mais le pilote, il doit savoir ce qu'on fait.
Ouais, c'est très juste.
Et sauf que le pilote, en fait, c'est un peu, tu sais, le film, mais il n'y a plus de pilote dans l'avion, en fait, là. J'ai l'impression que...
Non, est-ce qu'il n'y en a jamais eu vraiment de pilote dans l'avion? Moi, je crois pas trop, est-ce qu'il y ait d'obscurs lobbies qui pilotent la société? Il peut y avoir des situations dans lesquelles il y a des gens, mais oui, on est tous responsables. Dire, ah, c'est la faute à Total. Ou c'est la faute à un soi-disant lobby pro-nucléaire. Non. On fait système. Faire société, c'est faire système. Mm-hmm. On a tous envie d'avoir de l'eau chaude le matin quand on se douche, et on a tous envie de pas mettre la moitié de notre salaire dans la facture d'électricité. Bon. À partir de là, peut-être on peut commencer à discuter sur les responsabilités des uns et des autres, et surtout, sur ce qu'on peut faire concrètement. Et en fait, c'est là que je voulais en venir. Tu t'aperçois en regardant, une fois que tu as pris un peu de temps pour considérer le problème, en fait, il y a plein d'issues heureuses. Il y a plein de solutions qu'on commence à envisager. Il y en a plein, dans la manière de se déplacer, dans la manière de bouffer, dans la manière de jouir du monde dans lequel on est. Mais il n'y a pas que des gagnants. Et il faut s'occuper des perdants. Déjà. Et ça, c'est peut-être le premier truc, en fait. Tu vois, les gilets jaunes. La taxe carbone. C'est parti, hein. On sait que la crise des gilets jaunes, c'est parti de la taxe carbone. Bon. C'est quoi une taxe carbone? C'est quoi une taxe pour un politique? C'est un truc super pratique. Tu nommes pas les perdants. Tu dis, je taxe. Voilà. Je taxe l'automobiliste, et l'automobiliste rationnel va faire des choix rationnels. Alors, c'est l'automobiliste qui habite en centre-ville, qui n'a pas trop besoin et qui n'a pas un besoin vital de sa bagnole et qui a le salaire qui va bien, ouais, c'est bon. Celui qui habite à 40 bornes du Havre et qui doit prendre son diesel tous les matins pour aller taffer et qui n'a pas d'alternative parce que la nation n'a pas eu la prévention d'investir dans les bus, d'investir dans le train, d'investir dans la possibilité de prendre son vélo pour aller à la station de bus sans que ça soit une galère sans nom. Eh ben, cet individu rationnel-là, quand on lui dit casque et débrouille-toi, eh ben, il fait un choix rationnel. Il va cramer des palettes en bois sur un rond-point. Il met un truc voyant pour qu'on dise, eh oh, je suis là. Et ça, c'est l'immaturité du débat aujourd'hui. C'est-à-dire, ouais, on va mettre une taxe et puis ça va se faire tout seul. Ben non. Ça demande de faire ce qu'on est capable de, ce que notre nation, par exemple, on est censé être le pays des Lumières. Bon, faut changer l'ampoule, mais on reste le pays des Lumières. Ce qu'on a été capable de faire dans des périodes graves. Par exemple, je vais pas parler de la guerre, mais par exemple, après la guerre, on s'est retrouvé, on a dit, bon, on a bien déconné là. Ça serait pas mal qu'on mette en place un truc qui va s'appeler la sécurité sociale. Ça serait pas mal qu'on mette en place un truc qui va s'appeler le plan, le commissariat au plan. Bah nous, un des trucs qu'on dit au Shift Project, c'est ça serait pas mal de planifier un peu. De pas confondre les outils et le plan de montage. Il faut un plan de montage. Une taxe carbone, c'est un outil. Mais si l'outil, tu prends un marteau et puis le premier truc que tu fais, tu te le fous sur le doigt. Voilà, c'est ce qu'on a fait là. Non, il faut qu'on ait une conversation patiente pour dire on a besoin d'un plan. Et là, il y a plein d'issues.
Et d'ailleurs, je t'ai entendu dans une autre conférence où tu expliquais que finalement, si on réenvisageait complètement la manière dont on se déplace, en fait, le fait d'entretenir les routes, etc., ça a un coût qui est extrêmement important et que finalement, développer des moyens de transport communs, ça a un coût important aussi, mais qui finalement est pas...
C'est pas énorme. Attends, on a été une nation en très forte croissance à l'époque, dans les années 60. Voilà, on s'est offert, en quelque sorte, un réseau autoroutier tip-top, des lignes de TGV de partout, voilà. Les alternatives à la bagnole individuelle, parce qu'il faut nommer, justement, il faut nommer les perdants. Le perdant, c'est l'automobiliste qui est aujourd'hui tout seul dans sa bagnole pour faire 40 bornes. Lui, il est du côté du perdant. Donc, il faut qu'on s'occupe de lui. Il faut qu'on lui propose des alternatives. En tant que nation, qu'est-ce qui nous empêche, pendant 10 ans, 15 ans, d'investir systématiquement d'une manière cohérente dans toutes les alternatives qui permettent de faire autre chose que prendre sa bagnole quand on habite, y compris quand on habite en grande périphérie urbaine, en grande banlieue? Eh bien, oui, c'est possible. C'est possible. Nous, on a fait cette démonstration au Shift. On est en train d'expérimenter de plus en plus. Et on n'est pas les seuls à avoir cette, un peu plus qu'intuition. Moyennant des investissements qui n'ont rien à voir avec le pognon qu'on a pu mettre dans le TGV ou dans l'autoroute, tu peux, oui, tu peux développer la possibilité de prendre un vélo, faire 5 bornes, ce qu'on faisait il y a 30 ans en mobylette, de prendre ton vélo électrique, de faire 5 bornes, 10 bornes, d'aller jusqu'à une station de bus ou à des gares qu'il faudrait ouvrir, etc. Ça demande, en volume d'investissement, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on a pu mettre dans d'autres projets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus voraces en investissement. C'est possible, ça c'est possible. Et tu peux faire, et au bout du compte, et en bout de chaîne, tu permets aux gens de continuer à se déplacer, y compris quand ils habitent en grande banlieue, de continuer à se déplacer avec des temps de déplacement équivalents et de faire des économies. Parce que ça s'appelle la sobriété, en fait. Et cette sobriété, c'est de l'économie au sens paysan. C'est être économe de ressources. Et en fait, le développement systématique des transports en commun et des systèmes qui permettent d'utiliser du vélo ou du vélo électrique facilement, ça te permet d'économiser des centaines d'euros par an sur ton budget mobilité. Bon, c'est pas anodin quand t'es juste au-dessus de la ligne de flottaison avec ton revenu. Et tu peux faire exactement le même genre de raisonnement avec le bâtiment. Moi, j'étais assez surpris que les Gilets jaunes poussent pas l'idée que, remarque, on n'est pas passé loin, et nous, le Shift, on a beaucoup poussé ça, de dire les propriétaires bailleurs qui ont les moyens, ben oui, vous pouvez mettre quelques milliers d'euros dans l'isolation des toitures des gens qui sont vos locataires. Et vos locataires, derrière, ben ouais, ils vont faire pareil, quelques centaines d'euros d'économie. Donc, en fait, on est dans un système technique. C'est pas un outil isolé, c'est pas une solution isolée. Il faut arriver à déplier la carte, dire voilà où on est aujourd'hui. Et en fait, là, c'est là qu'on a beaucoup, beaucoup de chemin collectivement à faire. C'est-à-dire que on a perdu prise, on est un peu hors sol, quoi. On est nombreux, et moi le premier, parfois, avoir perdu de vue à quel point on doit notre confort, notre satiété, parce que malgré nos misères, on est la génération la plus opulente de tous les temps. Et ça, rien que ça, ça nous demanderait un peu d'humilité pour prendre en compte cette situation. Exactement comme un adolescent, à un moment donné, doit écouter les vieux qui disent « Mais tu te rends compte de ce que tu as ?» Voilà. En tant que société, on aurait besoin de se faire un peu engueuler. Mais tu te rends compte de ce que t'as là? Tu te rends compte? Tu râles là. Mais tu te rends compte comment c'était il y a 30 ans? D'aller à l'usine. De pas de gagner son beefsteak, mais de gagner son pain. Etc., etc.
Mais ça, les gens, ils veulent pas entendre.
Mais parce que personne n'a envie d'entendre ça. Tu vois, on a tous envie de voler, on a tous envie, tu vois.
De voyager.
Moi aussi, j'ai envie d'aller sur Mars, ou j'ai envie d'aller en week-end aux Seychelles. Seulement, les Seychelles, bientôt, elles sont sous la flotte. Donc, voilà, il faut ouvrir les yeux un peu.
Et alors, c'est le rôle de qui? Parce qu'en fait, je me dis. Enfin, j'aime pas cette expression, les gens, mais les personnes. C'est pas question de mauvaise volonté, c'est juste qu'elles comprennent pas, que j'ai pas l'impression qu'il y ait de politique.
Mais parce qu'on leur bourre le mou aussi.
Ouais,
je veux dire, les politiques, les journalistes, la pub, on a tous eu un discours complaisant. Voilà. Quand je parle de modèles de déplacement alternatif, il y a plein de gens qui ont l'intuition de se dire, ah ouais, ça serait intéressant, mais t'allumes ton poste, bah voilà, t'as des pubs pour des bagnoles. Et le point de mire de l'homme. Du consommateur roi, c'est à 50 ans, si t'as pas ton SUV, t'as raté ta vie. Voilà, ça reste ça. Bon, mais c'est pas irrémédiable. Moi, quand j'étais ado, fumer des clopes, bah, il fallait fumer une clope, c'était un mec. Tu vois, t'avais les modèles, les westerns, enfin tout ce que tu veux. Bah ouais, t'étais un vrai mec.
Tu fumais des clopes.
Et puis un beau jour, je me suis rendu compte, grâce d'ailleurs à la génération qui a suivi, que c'était complètement naze. Symboliquement.
Ouais.
Avant que je comprenne que j'étais en train de me
bousiller
la santé.
C'est une bonne image d'ailleurs. Parce que finalement,
oui, on a arrêté de fumer. Individuellement, on a pas complètement arrêté de fumer. Non. Mais je crois que en tonnage, la France brûle deux fois moins de tabac qu'avant qu'on se dise ah ouais, bah, faudrait peut-être interdire de fumer dans les cafés. Et aujourd'hui, ça serait hallucinant, je sortirais une clope, enfin, sinon on en a parlé. Mais, mais un mec qui sortirait une clope dans un bar, alors qu'il y a 20 ans, c'était complètement l'inverse.
Bien sûr.
Attends, tu vas me faire chier là, je vais pas fumer une clope. Non, mais t'es un malade ou quoi? Tu vois? Donc, bon, tout ça est pas. Les symboles, il y a deux choses. Les symboles peuvent se réverser, basculer facilement. C'est juste des idées. Ce qui ne peut pas se réverser facilement, c'est la technique. C'est là où, tu vois, il faut faire gaffe. C'est là où un peu la limite du yaka faucon ou du discours à la demain, à la embrassons-nous Folleville, yaka mettre des panneaux photovoltaïques, pardon, et des éoliennes partout, et ça va aller. Non. Ça, c'est là où. Il faut pas rêver complètement non plus. Mais c'est les deux. C'est-à-dire que les symboles peuvent basculer facilement et c'est super. Moi, je ne me lasse pas de m'émerveiller du point auquel symboliquement la société a changé d'opinion par rapport aux enjeux environnementaux. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que t'as un consensus large, pas absolu,
non.
À part dans valeur actuelle, mais que t'as un consensus large de dire ouais, attends, faut qu'on s'en occupe. Mais c'est là que la conversation sérieuse doit commencer. On fait comment?
D'ailleurs, tu peux nous parler, 2 minutes, on n'en a pas parlé, mais des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes comme solution alternative. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est vrai qu'on en a parlé au tout début, donc du coup, je n'ai pas du tout insisté, mais sur le nucléaire, c'est le problème, la solution, c'est les panneaux photovoltaïques. Est-ce que tu peux
Du point de vue, ouais, vas-y, pardon.
Ouais, non, qu'est-ce que tu peux en parler, 2 minutes, panneaux photovoltaïques éoliennes.
Ok, alors d'abord, vas-y. L'alternative renouvelable, énergie renouvelable nucléaire. D'abord, juste, je rappelle, c'est un sous-problème. C'est un cinquième du problème et c'est un problème dont les solutions sont dépendantes de ce qu'on fait avec les 4 autres cinquièmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit, tu trouveras jamais un spécialiste aussi favorable aux renouvelables qui te dira en France, ouais, sortir du pétrole et sortir du nucléaire, fastoche. Non, ça c'est les gens qui sont sérieux sur ces sujets-là, même s'ils sont très pro-renouvelables, ils diront, ouais, doigt dans le nez, trop facile. Tu compliques l'équation en te disant je barre pétrole et je barre en plus nucléaire. C'est plus, en tout cas en France, dans la situation française, dans nos situations de départ concrètes, ça complique. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la source d'énergie, comme on dit dans le jargon, décarbonée, c'est-à-dire sans énergie fossile, qu'on maîtrise, la plus puissante et qu'on maîtrise depuis quand même pratiquement un demi-siècle, c'est le nucléaire. C'est la source qu'on a pour produire beaucoup d'électricité carbonée avec un système relativement simple. Ok.
Décarboné.
Décarboné. Parce que et ça, c'est, tu vois, c'est un problème.
Il y a des gens qui pensent que ça génère des gaz à effet de
mais
serre.
Mais la majorité des Français croient que le nucléaire contribue à l'effet de serre. Donc c'est un exemple assez symptomatique de du chemin qu'on a à faire pour prendre la mesure du problème. Tu vois, tu peux te dire que le nucléaire c'est un cancer de la peau, mais si on te dit que ton problème principal c'est un problème cardiaque, ouais, t'as un problème de peau, ok. Mais en fait, ce qui risque de te niquer là dans les d'avoir ta peau dans les 6 mois qui viennent, c'est la crise cardiaque qui te pend au nez parce que t'as trop de cholestérol. C'est un autre problème. Je dis pas que le nucléaire ou qu'un accident nucléaire c'est pas un sujet. Mon point, c'est, je pense que l'ordre de grandeur du danger que prend la société à perpétuer son addiction aux énergies fossiles n'a rien à voir avec le danger qu'il y a à perpétuer l'utilisation d'énergie nucléaire. Bon, après, maintenant, sur l'alternative. Mm-hmm. Bon, pourquoi le nucléaire, ça simplifie le problème ? Parce que le nucléaire, tu peux avoir de l'énergie en abondance décarbonée. Les 3/4 du temps. C'est-à-dire, si j'enlève le temps qu'il faut pour arrêter la centrale, changer le combustible et refaire le plein, si j'ose dire, d'uranium. C'est 70-80% du temps. Le problème des énergies renouvelables, enfin, des nouvelles énergies renouvelables, puisqu'on parle jamais des barrages et tout ça, c'est une source d'énergie renouvelable extrêmement importante. Le problème, c'est qu'en France, on a mis des barrages à peu près là, partout, là où c'était intéressant d'en mettre. On en a déjà mis. Mais quand on parle aujourd'hui d'énergie renouvelable, on parle surtout effectivement du solaire et de l'éolien. Le problème de l'éolien et du solaire, c'est que ça marche quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Or, il n'y en a pas tout le temps. Voilà. C'est con à dire, ça a l'air con, mais c'est quand même une donnée énorme du problème. C'est-à-dire que typiquement en hiver, bon là c'est pas le cas aujourd'hui, mais on a presque trop de vent. À mon avis, il y a quelques éoliennes sur lesquelles on a mis des freins.
Non, ouais, non, mais
trop de vent, c'est aussi un problème. Mais une journée assez classique en hiver, où les besoins d'énergie sont énormes, notamment pour se chauffer, ça va être une journée où tu vas avoir un ciel bouché et pas de vent. Tu peux avoir ça pendant une semaine. Et tu peux avoir ça du Portugal jusqu'au nord de l'Allemagne. Tu as une patate anticyclonique, tu as une couverture nuageuse. De toute façon, le soleil est bas, donc tu ne peux pas faire grand-chose avec le soleil. Parce que en fait, le solaire, ça marche de 11h à 13h, et quand le soleil est très haut. C'est-à-dire que tu as un décalage complet, et en fait, les besoins en énergie, ils sont... quand les grosses pointes de demande d'énergie, c'est la bouilloire et le toaster le matin, et c'est le journal de 20h, le four, c'est ça. Et ben dans ces moments-là, l'hiver, ben tu peux très bien, très facilement te trouver dans une situation où t'as pas assez de vent et t'as pas assez de
soleil.
Voilà. Donc la solution, la variable d'ajustement, comme disent les ingénieurs, c'est de dire ok, ben on va consommer moins d'énergie, beaucoup moins. Et typiquement, en France, on a un truc qui est magnifique, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est un truc extrêmement sophistiqué. Bien fait, mais ça ne boucle, l'équation ne boucle que si on arrive, en tant que société, à consommer beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui. Et une fois que j'ai dit ça, là j'ai ouvert un champ de problèmes énorme. Énorme. Le premier problème, c'est le faire accepter par les gens. Ah non, 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 t'allumeras pas ton lave-vaisselle quand tu veux. Ah bah non, non, non. Et on va te le piloter. On va te piloter le chauffage de ton eau. Ah bon, Linky, mais j'en veux pas. Attends, c'est l'intrusion dans la vie privée. Il y a pas moyen. Non, non, non. Ou alors, non, non, tu vas prendre un bus ou tu vas faire du covoiturage. Mais ça va pas, non. Oh, c'est ma liberté. C'est quoi là? De quoi tu me parles? Bon, etc., etc. Or, en fait, si tu veux arriver à boucler l'équation, a fortiori si tu dis je veux pas de nucléaire, tu dois d'autant plus arriver à convaincre tes concitoyens qu'il va falloir consommer pas un peu moins d'énergie, mais beaucoup moins d'énergie. Et très vite. Et de manière ordonnée. Sans que... regarde, les gilets jaunes, 9 centimes d'essence, 9 centimes d'euros par litre d'essence, t'as un dixième de la France, un vingtième de la France qui est dans la rue, et la moitié qui disent « Ouais, putain, ils ont raison, ils font chier de nous augmenter les taxes. » Tu me dis que c'était assez cool la conversation, j'espère que je dis pas trop de gros mots.
Non, non, tout va bien.
C'est cool. Voilà, c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut une conversation adulte. On ne peut boucler cette fichue équation que nucléaire ou pas, que si on consomme moins d'énergie. Consommer moins d'énergie, C'est pas juste je vais trier mes déchets. Ça va bien au-delà de ça, individuellement et collectivement. Ça suppose des investissements, ça suppose des réglementations, ça suppose des interdictions. Là, il y a un truc très intéressant, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Là. Mmh. Justement, je pense qu'on a des politiques, on a une classe politique, moi je les côtoie beaucoup et j'essaie beaucoup de les convaincre. On est beaucoup qui sont comme toi. On est beaucoup, même quand on est un salaud de politique ou un salaud de patron, à se dire, j'ai des gosses. Ah ouais, ouais effectivement, on a un consensus, on a cette chance. On a deux chances. On a un consensus assez large dans la société pour se dire qu'il y a un problème. Et la seconde chance, c'est que le problème, il est largement objectivable. Il se mesure en CO2, en joules. Mmh. Voilà. Et la Convention citoyenne pour le climat, ça consiste pour M. Macron à se décharger de la charge de la preuve. Je pense que M. Macron, il adorerait entrer dans les livres d'histoire en étant vraiment, ce qui n'est pas encore aujourd'hui, ce qu'il prétend être parfois, un peu trop complaisamment, le champion du climat. Mmh. Mais lui, il adorerait entrer dans les livres d'histoire en disant « En 2020, le président de la France a embarqué son pays, puis l'Europe, puis l'humanité, enfin, dans une politique efficace, cohérente, audacieuse pour sortir des énergies fossiles. » Seulement, Édouard Philippe, notre Premier ministre, il a dit « Est-ce qu'on peut aller à 80 km/h sur les routes ?»« Ouais, ça va pas, t'es un malade !»« Est-ce qu'on peut augmenter de 9 centimes d'euros le litre d'essence ?»« Ouais, t'es un malade !» Peut-être légitimement, les gens gueulaient légitimement, hein. Il y a des très bonnes, je dis pas que les raisons de gueuler étaient pas légitimes. C'est simplement que les politiques, ils ont les miquettes, là. Ils ont envie d'entrer dans le livre d'histoire, mais ils savent pas du tout comment prendre le truc. Donc, la Convention citoyenne pour le climat, là, ils sont allés tirer les citoyens au sort et leur dire, allez, dites-moi. Moi, je sais pas vous, dites-moi comment on fait. Et nous, on suit ça d'assez près. Ils pourraient sortir des choses très intéressantes de ça. Intéressantes. Notamment, par exemple, dire des symboles. Symbole lourd. La France a dit, Monsieur Hulot a dit, en 2040, il n'y aura plus de bagnoles à essence. OK. La stratégie nationale bas carbone dont je parlais tout à l'heure dit, en 2030, il faut qu'on arrive à avoir des bagnoles qui roulent à 4 litres au 100. Elles sont plutôt à 7 ou 8 aujourd'hui, voire plus. 4 litres au 100. Déjà, divisé par 2, c'est énorme, énorme. Eh bien, la Convention citoyenne pour le climat, et nous, on leur souffle que ça serait pas mal on les encourage à faire ça, ils se disent, tiens, on pourrait interdire les publicités, là, demain, pour des bagnoles qui font plus de 4 litres 100. On a bien interdit les pubs pour le tabac. Mmh. On a bien réglementé les pubs pour l'alcool. Bon, là, collectivement, on a les habitudes d'un fumeur qui fumerait 5 paquets par jour et qui se dirait,
Pas de problème.
Et ben voilà. Et ça, ça va venir. C'est pour ça qu'on vit une époque...
Intéressante. Et est-ce que tu penses... Parce qu'il y a aussi une question que les gens se posent, je crois, qui est... Mais est-ce que vraiment ça se joue au niveau national? Parce qu'en fait, on est un tout petit pays, quoi.
Ouais, ok. Alors, j'ai la réponse. non, mais c'est vrai. Les émissions nationales de notre pays, notre petit pays, la France, c'est un pouillème des émissions mondiales. Bon, je passe sur le fait qu'il y a beaucoup d'émissions
à l'extérieur qui sont dues à
des trucs et des machins qu'on fait venir de Chine.
Bien sûr.
Voilà. Bon, ça, on glisse complètement là-dessus. Mais même en admettant, même en comptant les émissions qu'on importe de Chine, disons, c'est vrai que on est 50 millions, 60 millions de bonhommes et au total, on est 8 milliards. Donc, on pèse pas grand chose dans la balance. En fait, c'est omettre le fait qu'il n'y a pas une excellente raison de sortir des énergies fossiles, qui est le climat. Il y en a deux. La seconde, c'est Mad Max. On n'a pas ça suffisamment en tête. D'abord, on n'a pas très envie de l'avoir en tête, mais le pétrole est une ressource tarissable. Et elle se tarit dans plein d'endroits du monde. Et je peux en parler avec confiance parce que je suis un des meilleurs spécialistes de cette question, en France en tout cas. Enfin, en tout cas, je suis un observateur très attentif de cette question-là depuis longtemps. Mmh. Et la France est cernée et s'approvisionne pour beaucoup, auprès de producteurs pétroliers qui sont en déclin, pour des raisons géologiques. Encore une fois, il n'y a pas de coupure entre nous et l'environnement. Il n'y a pas de solution de continuité. Et il n'y a pas une puissance de l'esprit qui va nous affranchir d'un coup de cette réalité très triviale qui est que plus vite tu vis d'un verre d'eau, plus vite
il n'y en a plus.
Voilà. Eh bien, regardons un peu autour de nous. La moitié des importations de l'Europe en pétrole, ça vient de pays qui sont soit entrée en déclin, l'Algérie est un cas d'école de ça. La mer du Nord, qui est notre source la plus proche de pétrole, est un cas d'école d'un déclin géologique à terme irréversible un épuisement qui est commencé, donc de pétrole, soit de pays qui sont déjà en déclin, soit de pays qui pourraient très prochainement entrer en déclin. Et il y en a un, moi, qui me fait beaucoup m'interroger, c'est la Russie. On parle souvent, on a souvent en tête la dépendance qu'on a au gaz. Mmh. En fait, on importe beaucoup de pétrole à M. Poutine aussi. Et il se trouve que la Russie est un producteur pétrolier ancien, dont bon nombre de champs pétroliers sont en déclin et en déclin rapide. À tel point que c'est aujourd'hui le Kremlin qui en parle directement, en disant, y compris dans les colonnes du Financial Times, par exemple, on vous prévient, les gars, on va peut-être pas pouvoir vous approvisionner comme ça pendant encore très très longtemps, en tout cas au niveau de production où on est aujourd'hui. Quand on parle de ça, on parle pas de demain, il y a plus de pétrole. On parle d'un lent déclin qui correspond à un sevrage de la société, lent mais inexorable. Voilà. Petit à petit, on t'appuie sur la carotide. Mais le déclin pétrolier, le déclin toute la problématique qu'on appelle du pic pétrolier, c'est ça. Et il faut surtout pas croire que c'est une vue de l'esprit ou que c'est un truc qui se passera dans un siècle. On est aujourd'hui au maximum, à peu près, pas très loin du maximum de production de carburant liquide. On est sur les contreforts de cette grande montagne qui fait que, voilà, on est parti en bas de la montagne à la fin du 19e. On va à un moment donné passer par un maximum et ensuite, inexorablement, parce qu'on habite sur une sphère, on habite sur un monde fini, voilà, ça va décliner. Donc c'est la seconde raison. Et là, Français, même si on ne pèse pas grand-chose dans les émissions, on n'a pas de pétrole. On a des idées, bon, il paraît qu'on a des idées des fois, mais voilà, bon, peut-être. Il faut les chercher en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de pétrole et qu'on s'approvisionne auprès de pays qui ont des problèmes pour maintenir leur production. Et ce n'est même pas une question juste de nos approvisionnements. L'Algérie, qui est, voilà, c'est nous l'Algérie, on a un destin commun avec, avec nos frères d'Algérie. On a un peu de responsabilité aussi vis-à-vis de l'histoire de ce pays. Ça, ouais. Bon, il se trouve que la production de la Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, décline doucement. Voilà. Et si vous discutez avec des gens de la Sonatrach, ils vous disent, ouais, la fête est un peu finie. C'est-à-dire que globalement, peut-être qu'ils vont réussir à faire des petites résurgences, mais ils sont plutôt sur la pente descendante. Ils ont plutôt passé la cinquantaine, leur champ pétrolier. Voilà, comment on dirait. Ils sont... Et si tu te rappelles le cas d'un pays qui s'appelle le Venezuela, tu te rends compte à quel point un pays comme ça, un régime du type algérien, est tributaire de sa capacité à avoir des pétrodollars pour maintenir son régime. Voilà. À Dieu ne plaise que cela advienne. Si on devait avoir un scénario peu ou prou de type Venezuela pour l'Algérie, ça serait compliqué en France. Ça serait compliqué pour nos amis algériens. Et ça, ils le savent très bien. Et je peux vous dire que le déclin de la production pétrolière en Algérie, c'est très concret. C'est très connu et très concret pour l'Algérien, entre guillemets, moyen. Mais voilà, l'extrémisation des discours politiques, les décisions, on va dire, malheureuses et hâtives en cas de crise, ça fait longtemps qu'en France, on n'a pas eu, Dieu merci, tant mieux, une grosse crise du type, bah, on a un voisin qui se porte pas bien du tout. Et voilà, on voit l'extrémisation des discours politiques quand on a 4 malheureux Syriens et 3 Érythréens et 8 Maliens qui se disent « S'il vous plaît, on peut avoir un bout du gâteau ?» Qu'est-ce qui se passerait si on avait un scénario de fail state à la vénézuélienne en Algérie? C'est pas du tout invraisemblable. Loin s'en faut, malheureusement. Donc on a deux excellentes raisons d'apprendre collectivement à se passer de cette énergie qui fait l'abondance dont on bénéficie, qui fait des régimes politiques qui sont coincés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le régime des généraux algériens, il achète massivement depuis des années la paix sociale avec l'argent du pétrole, et il scie littéralement la branche sur laquelle il est assis. Mais nous, on fait pareil. Donc, degré ou de force, il faut inventer un monde nouveau.
Et puis je crois que, en tout cas moi c'est le conseil que je donne aux boîtes en général, qu'il vaut mieux se transformer quand on a encore les moyens, plutôt que d'attendre que tu sois en crise.
Parce que là, ça devient trop tard. C'est trop tard. D'accord.
En tout cas, je retiens, enfin, dans tout ce qu'on, c'est une longue conversation, ça fait 52 minutes qu'on parle pour le coup, mais je retiens quand même que dans ce que tu dis, enfin, parce que moi j'ai quand même un état d'esprit plutôt positif, il y a quand même plein de...
Ah, moi aussi, hein, je te rassure.
Non, mais ouais. Je veux rassurer les gens qui nous écoutent.
Ouais. Non, mais moi je pense qu'il y a plein d'issues heureuses.
Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, il y a plein d'issues heureuses. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
Je voudrais ouvrir la porte à la lucidité collective et claquer la porte au Yaka Faucon.
Ok. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan.